Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, fini le test PCR pour les enfants cas contact. Nouvel assouplissement au protocole sanitaire à l'école, annoncé ce soir par Jean Castex. Toutes les précisions dans un instant. Le droit à la vie tranquille. Emmanuel Macron a choisi Nice pour défendre son bilan sécuritaire et enchaîner les annonces. 15 milliards d'euros supplémentaires, doublement des policiers sur le terrain. Revue de détails à suivre. La reconstruction de la vallée de la Roya, un peu plus d'un an après la tempête Alex et ses crues meurtrières. Emmanuel Macron s'est rendu sur place pour un état des lieux après son étape niçoise. La plus belle victoire de sa carrière, ce n'est pas Novak Djokovic qui le dit, mais sa propre mère. Djokovic, libéré de sa rétention, il s'entraîne sur le sol australien avec la ferme intention de jouer à Melbourne. La météo, attention, toujours 10 départements en vigilance, dont 2 rouges pour des crues exceptionnelles. La tendance est à l'amélioration, nous confirmera Marlène Duret. L'invité éco, on va vous parler de la dernière née des licornes françaises. Rendez-vous à 22h20 et puis on découvrira les unes de la presse de demain matin.
Europe 1.
Le casse-tête du protocole sanitaire à l'école. La grogne des parents et des profs. Jean Castex a apporté ce soir une nouvelle réponse, ou plutôt de nouvelles retouches aux règles anti-Covid en milieu scolaire. Le Premier ministre était ce soir l'invité du 20h de France 2.
Je suis venu annoncer 3 dispositifs de simplification et d'assouplissement. Le premier, quand un cas positif est décelé dans une classe. On ne demande pas tout de suite aux parents de venir chercher leur enfant au motif qu'il est cas contact, on attendra la fin, la sortie scolaire. 1. 2, surtout, sur les tests. Aujourd'hui, votre enfant est cas contact, il doit donc faire 3 tests. Un test PCR ou antigénique en pharmacie et 2 autotests ensuite au bout de 2 jours et de 4 jours. J'ai demandé aux autorités scientifique et sanitaire, la possibilité que nous avons donc décidé, que je vous annonce, en réalité de pouvoir recourir à 3 autotests. Et la troisième mesure, avant, dans le protocole actuel, on disait, vous devez produire une attestation à chaque fois pour dire, ben voilà, l'autotest que j'ai pratiqué est négatif. Là, on va demander une attestation, une fois pour toutes, pour simplifier la vie des parents et des enseignants.
Jean Castex ce soir sur France 2. Voilà donc 3 aménagements au protocole sanitaire à l'école. Louis Salé, l'idée c'est bien de simplifier la tâche à des parents débordés tout au long de la semaine dernière.
Oui, tout d'abord avec l'annonce des 3 autotests à réaliser si votre enfant est cas contact. Plus besoin donc de faire la queue devant les pharmacies pour effectuer un antigénique à chaque fois qu'un camarade de classe est déclaré positif. Votre enfant peut réaliser un autotest à la maison à J0, puis à J+2 et J+4 comme c'est déjà le cas. Autre faveur accordée aux parents pour qui l'organisation des journées devenait très pénible, plus besoin de chercher immédiatement son enfant à l'école s'il est déclaré cas contact, ça peut attendre la sortie scolaire. Enfin, une seule attestation sur l'honneur pourra être remise à l'école à la fin de l'ensemble des 3 tests si un enfant est cas contact. Ces allègements posent évidemment la question du stock disponible d'autotests. Le Premier ministre a rappelé 11 millions de ces tests seraient livrés cette semaine dans les pharmacies. L'enjeu est évidemment que cette livraison se fasse le plus rapidement possible, puisque les ruptures de stock sont déjà très nombreuses sur ces produits depuis la semaine dernière.
Merci Louise Salé. Alors on va voir si ces dernières annonces du Premier ministre apaisent ou pas la colère des parents. Du côté des enseignants, l'appel à la grève court toujours pour ce jeudi dans les écoles, collèges et lycées. Dans le Pas-de-Calais, la grogne n'attend pas. À Liévin, les parents d'élèves eux-mêmes ont appelé aujourd'hui à une journée école morte pour protester justement contre ce protocole sanitaire. Un appel plutôt bien suivi, Lionel Gougelot.
Ah oui, ça sonnait un peu creux hein, cet après-midi dans la cour de récréation avec une 50aine d'élèves présents seulement sur les 280 inscrits à l'école. Samira, institutrice de CP, n'avait que 2 élèves dans sa classe aujourd'hui.
Eh ben, on fait des petits exercices de révision, on a fait une activité sportive ce matin. Voilà, vraiment, on ne peut pas faire grand-chose. Hein, ça fait une semaine qu'on tourne à effectif réduit.
Parce que les cas positifs se sont multipliés ces derniers jours, transformant le quotidien des parents en casse-tête permanent, selon Sabrina Piccarini, présidente de l'association des parents d'élèves.
Parce que qui dit un
cas positif, la directrice appelle les parents et ils doivent tout quitter, quoi. Ils doivent s'arranger pour venir rechercher le gamin. Et s'ensuit une queue au labo de 2 heures. Les pharmacies, idem avec les tests antigéniques, c'est pas faisable. Les gamins, ils connaissent plus le chemin du labo ou des pharmacies que d'être en cours.
Un protocole qui met les familles au bord de la crise de nerfs.
Puis on n'a pas de capteur de CO2, on n'a pas de purificateur d'air comme le gouvernement a dit. Le port du masque à longueur de journée, les gamins sont toujours en train d'essayer de boire parce qu'ils ont la bouche sèche. Plus les gamins qui ont de très grosses difficultés de langage, déjà en plus avec le masque, c'est très compliqué pour eux, c'est anxiogène. Ils n'ont plus plaisir à aller à l'école, ils vont à l'école la boule au ventre.
Des parents d'élèves qui soutiennent la grève des enseignants qui sera menée demain ici dans cette école de Liévin.
Lionel Gougelot à Liévin dans le Pas-de-Calais pour Europe 1. Le pass vaccinal, lui, continue son chemin. Examiné depuis ce lundi au Sénat, devant les sénateurs, Olivier Véran a écarté une prochaine généralisation du port du masque FFP2. À la demande du gouvernement, le Haut Conseil de la Santé publique a rendu son avis et il est défavorable. Le ministre de la Santé a aussi vanté les mérites du pass vaccinal.
Avant même que le pass vaccinal soit adopté, les effets sont déjà visibles. Puisque la simple évocation du pass vaccinal a fait bondir le nombre de primo-vaccinations dans notre pays, 230 000. Donc le pass vaccinal n'est ni l'alpha ni l'oméga, vous avez raison, c'est une mesure supplémentaire qui sera à notre disposition si jamais il devait y avoir de nouveaux variants émergents nécessitant de garantir un niveau de protection optimal. Et vous le savez, je le redis, ça va de soi, tous ces outils de pass sanitaire, de pass vaccinal, le jour où nous ne sommes plus sous la menace permanente d'un nouveau variant, nous en passerons avec beaucoup de plaisir et même beaucoup d'allégresse, vous comme moi.
Olivier Véran cet après-midi devant les sénateurs. Emmanuel Macron était aujourd'hui à Nice avec la ferme intention de reprendre la main sur le terrain de la sécurité. Thème qui s'impose à nouveau comme l'un des thèmes phares de la campagne. Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, mais il a veillé à défendre son bilan attaqué par ses adversaires, à mettre aussi des moyens sur la table, 15 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans. Vous avez suivi le chef de l'État pour Europe 1, Jacques Soret. Emmanuel Macron est venu poser la première pierre d'un autre hôtel de police high-tech prévu à Nice, donc pour 2025.
Oui, debout, micro en main, au milieu de cet hôpital désaffecté destiné à devenir un immense commissariat, Emmanuel Macron égrène ses mesures.
On va mobiliser des forces supplémentaires, on va créer 200 brigades de gendarmerie en milieu rural.
Brigade pour les campagnes, force d'action républicaine pour les quartiers et un objectif, doubler la présence policière sur la voie publique à horizon 2030.
Aujourd'hui, nos policiers comme nos gendarmes, ils font beaucoup de tâches qui ne changent pas votre quotidien. Des gardes de bâtiments publics, de détenus hospitalisés, la police des audiences, des escortes diverses et variées. Et donc, on va les libérer de ces tâches en les faisant occuper par des personnels administratifs ou par des partenariats privés ou sous contrat. Mais ça va nous permettre de dégager l'équivalent de 3500 policiers et gendarmes.
Des chiffres, encore des chiffres. Emmanuel Macron annonce le doublement en 5 ans des enquêteurs dédiés aux violences intrafamiliales, doublement également de la présence policière dans les transports en commun. Côté justice, il promet la généralisation des amendes forfaitaires pour les délits sanctionnés par des peines inférieures à 1 an de prison et le triplement à 300 euros de l'amende pour harcèlement de rue. Autant de mesures qui ne sont là l'ébauche que de son programme de candidat, car celle-ci ne pourrait voir le jour que s'il est réélu.
Alors, l'intervention d'Emmanuel Macron avait tous les atours d'un discours de campagne, Jacques, le président empiétant sur les lignes de la droite.
Oui, c'est l'objectif de cette offensive, répondre à la droite qui estime que le régalien est son point faible, qui plus est sur des terres de droite, aux côtés du maire de Nice, l'ex-LR Christian Estrosi. D'ailleurs, sans les nommer, le président, pas encore officiellement candidat, a lancé quelques piques à ses adversaires, et notamment à Valérie Pécresse, qui déclarait il y a 3 jours vouloir ressortir le Karcher de la cave.
Il est normal dans des temps démocratiques qu'il y ait des débats démocratiques qui viennent agiter les choses, mais nous devons le faire sans céder à la frénésie des temps contemporains. Ne pas répondre à l'augmentation de la violence par l'inflation de la facilité, des formules simples, des solutions apparemment magiques.
Le droit à la vie tranquille, défend Emmanuel Macron, manière pour lui de s'immiscer sur ces questions de sécurité tout en essayant de prendre de la hauteur, alors que dans les sondages, le match s'annonce serré derrière lui entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen.
Jacques Soret à Nice pour Europe 1. Après cette séquence niçoise, le chef de l'État s'est rendu dans l'arrière-pays, précisément à Tende, dans la vallée de la Roya, frappée par des inondations meurtrières. C'était il y a un peu plus d'1 an, Frédéric Michel.
Effectivement, et après avoir fait la route de Nice et constaté l'avancée des travaux sur la route menant en haut de la vallée, la plus touchée avec une dizaine d'ouvrages détruits et des dizaines de kilomètres de route gravement endommagées, le président a rencontré ici, attendent les élus de la vallée avant de remercier les équipes de secours, les associations et de prendre un bain de foule pendant près d'une heure.
J'ai apporté la solidarité de la nation.
On en avait besoin.
Et dans la durée, mais parce que vous êtes battu.
On peut tout vous remercier, c'était super.
La population était d'un courage extrême. Et puis il y a eu un engagement inédit financier et concret. Et donc les choses se reconstruisent. Il y a des vallées où c'est quasiment terminé. La toute fin des travaux se fera d'ici novembre. On ne lâche rien, et en particulier les liaisons avec l'Italie.
Oui, car la route avec l'Italie est toujours coupée. Il faut accélérer la construction du tunnel de Tende. Un peu plus tôt, le chef de l'État avait remercié les ouvriers engagés sur le chantier. Julien est conducteur de travaux depuis un an avec des dizaines d'autres collègues. Il travaille dans la Roya.
Que ce soit le président ou ne serait-ce que les gens du village, tout le monde nous a bien accueillis, tout le monde nous a félicités, ça fait chaud au cœur. Mais j'attends aucun retour, on fait ça parce que c'est normal. Il y a des gens qui ont été sinistrés, qui sont dans le besoin et qui, eux, ont eu un malheur.
A noter un incident lors de cette séquence, une femme a montré ses mains au chef de l'État avec écrit « Je t'emmerde ». Emmanuel Macron lui a répondu « Protégez-vous ».
Frédéric Michel attende dans la vallée de la Roya pour Europe 1. Un deuxième tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, comme en 2017. C'est le scénario d'un nouveau sondage IFOP fiducial qui place le président sortant largement en tête du premier tour à 27%, tandis que la candidate RN se détache en deuxième position avec 17,5% des voix, devant Valérie Pécresse à 15,5%. Éric Zemmour, lui, est distancé, 12,5% des intentions de vote, tandis qu'à gauche, aucun candidat ne franchit la barre des 10%.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
La prudence, toujours ce soir dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, deux départements qui viennent d'être rétrogradés de la vigilance rouge à une vigilance orange après un épisode de crue exceptionnel. Les inondations, fort heureusement, n'ont fait aucune victime, mais il est encore trop tôt pour relâcher la vigilance, Benjamin Péter.
Oui, dans les Landes, comme à l'automne dernier, c'est à Peyrorade que l'eau continue de monter. Le pic de crue est attendu entre 22h et minuit. Une partie de la journée, des patrouilles ont sillonné la ville pour conseiller aux habitants d'évacuer préventivement. Côté Pyrénées-Atlantiques, c'est la combinaison de ces fortes précipitations et du redoux qui inquiète, puisque la limite pluie-neige est montée très haut aujourd'hui, ce qui a entraîné la fonte des neiges et ce qui a fait gonfler les cours d'eau à Oloron-Sainte-Marie. Du coup, le gave devrait atteindre le pic de crue demain matin. Plus à l'est, en revanche, la situation s'est nettement améliorée dans les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège, puisque ces départements sont repassés en alerte orange. Mais partout, les cours d'eau sont très hauts. C'est le cas de la Garonne en plein Toulouse, mais aussi plus en amont, à Saint-Béat, qui avait été, vous en souvenez, le théâtre de violentes inondations en 2013. En Ariège également, les pompiers ont été très mobilisés pour des coulées de boue en altitude, des mises en sécurité d'automobilistes imprudents qui s'étaient engagés sur des routes coupées, mais aussi autour de la rivière Le Salat à Saint-Giron, où un témoin dit avoir aperçu un corps qui flottait dans l'eau. Mais la préfecture reste toutefois prudente, puisqu'aucune disparition n'a pour le moment été signalée.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Le réchauffement climatique mesuré au thermomètre les 7 dernières années sont de façon très nette les plus chaudes jamais enregistrées. C'est la conclusion du service européen Copernicus d'observation de la Terre, avec des concentrations records de gaz à effet de serre. À Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, l'automobiliste suspecté d'avoir agrippé et fait chuter des piétons au volant de sa voiture est ce soir en garde à vue. Une vidéo tournée tôt hier matin par un passager de ce véhicule circule sur Internet. Le conducteur s'est rendu de lui-même à la police cet après-midi. Il avait reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Parmi ses victimes, un piéton âgé d'une soixantaine d'années a été légèrement blessé. Il a déposé plainte. Les bonnes nouvelles sont rares, hélas, lorsqu'elles nous viennent de Kaboul, en Afghanistan. Mais en voici une qu'il est bon de partager. Nous sommes à l'aéroport de Kaboul. Au mois d'août dernier, les talibans viennent de reprendre le pouvoir. Mouvement d'exode, on se souvient de ces scènes de désespoir sur les pistes de l'aéroport. Et bien, dans ce chaos, un père tend son bébé à un soldat étranger au-dessus de la foule. La suite, c'est vous qui nous la racontez, Caroline Baudry.
Eh bien, le petit Soheil, 2 mois, est alors séparé de son père qui le cherche pendant 3 jours dans un aéroport bondé. Cet ancien agent de sécurité de l'ambassade américaine finit par s'envoler, sans le bébé, vers les États-Unis avec sa femme et ses 4 autres enfants. C'est Hamid Safi, chauffeur de taxi, qui le retrouve en pleurs, abandonné au sol.
Je suis entré dans l'aéroport et j'ai vu un bébé allongé par terre, en très mauvais état. J'ai regardé autour de moi, j'ai montré cet enfant à plein de gens, mais personne ne le connaissait. Alors j'ai appelé ma femme et j'ai ramené l'enfant à la maison. Je lui ai acheté du lait et depuis ce jour, nous nous sommes occupés de lui.
Cinq mois plus tard, la semaine dernière, la famille de Sohail retrouve sa trace à Kaboul, aidée par les réseaux sociaux et la police. La séparation avec sa famille adoptive est déchirante, mais le petit garçon rieur aux boucles brunes est bien confié à son grand-père. Il devrait pouvoir rejoindre ses parents aux États-Unis, où sa mère n'a pas fermé l'œil la nuit dernière, tant sa joie est immense.
Et Caroline Baudry, dernier hommage à Grishka et Igor Bogdanov. Les obsèques des frères jumeaux ont rassemblé leurs proches et plusieurs centaines de personnes à la Madeleine cet après-midi à Paris. Les frères Bogdanov sont tous deux morts du Covid à moins d'une semaine d'intervalle. Novak Djokovic nous avait jusqu'ici habitués au suspense sur court. Et bien cette fois, c'est loin du filet qu'il vient de jouer ce retour gagnant. Le numéro 1 mondial, libéré du centre de rétention pour migrants, où il aura passé 5 jours en Australie, à une semaine exactement du Grand Chelem de Melbourne. Novak Djokovic, de retour à l'entraînement, sur le sol australien, en tout cas pour l'instant, Jean-François Pérez. C'est une première victoire pour Djokovic.
Oui, la décision du juge australien Anthony Kelly a été accueillie triomphalement par le clan Djokovic. Alors que le joueur quittait l'hôtel de Melbourne, où il était retenu depuis 5 jours, sa famille a reçu la presse à 15 000 km de là, dans son QG de Belgrade, au Novak Café. Sa mère, Diana, n'a pas fait dans la demi-mesure.
Je tiens à remercier tous ceux qui se sont levés et ont soutenu Novak à Melbourne devant l'hôtel où il était retenu. C'est la plus grande victoire de sa carrière, peut-être même plus grande que n'importe quel grand chelem.
7 Djokovic donc, mais pas match. La famille a notamment refusé de répondre aux questions sur la date et surtout la véracité du test positif du joueur le 16 décembre, celui qui lui avait permis d'obtenir le feu vert pour l'Open d'Australie. La dernière personne qui peut désormais empêcher le Serbe de s'aligner, c'est le ministre australien de l'immigration. En attendant, celui qui espère remporter son 21e titre du grand chelem début février s'est entraîné. Il a posté une photo sur le court à Melbourne avec son staff, avec ces mots « Je veux rester ici et jouer le tournoi, c'est pour cela que je suis venu ».
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Aurel San et Clara Luciani dominent les nominations en victoire de la musique. Ils postulent chacun dans 4 catégories, meilleur artiste, album, chanson et création audiovisuelle. Pour avoir le verdict, eh bien rendez-vous à la cérémonie, ce sera le 11 février prochain. Le temps pour ce mardi, Marlène Duret, on va commencer par une bonne nouvelle, puisque ça va s'améliorer dans le sud-ouest.
Et oui, je peux même vous dire, Alexandre, que ça s'améliore déjà. En ce moment, les pluies sont en nette atténuation dans les Pyrénées frontalières. Elles vont se maintenir cette nuit de façon faible et éparse jusqu'en début de matinée dans le Béarn et le Pays Basque, avant de voir le soleil. Alors au niveau de la vigilance, on va refaire un petit point quand même.
Oui.
Au niveau des crues, les Landes et les Pyrénées Atlantiques repassent en orange. Vous l'avez dit en début de journal. Alerte aux crues également dans les Hautes-Pyrénées, en Haute-Garonne, en Ariège, dans le Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Alerte orange aux avalanches également pour les 4 départements pyrénéens, des Pyrénées-Atlantiques aux Pyrénées-Orientales. Voilà, ça c'est dit. Changement de temps, donc je vous l'annonçais. Conditions anticycloniques hivernales classiques qui se mettent en place. Et demain matin, on va retrouver la trace de la perturbation sous sa forme nuageuse, simplement, le long du littoral aquitain et charentais. Et puis à l'ouest d'une ligne Niort-Le Mans-Rouen, avec quelques bruines. L'après-midi, le ciel restera couvert en Basse-Normandie, en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Mais sur le reste du territoire, le soleil va s'installer une fois les grisailles et brouillards parfois givrants dissipés. Malheureusement, quelques plaques peuvent résister en journée, dans la vallée de la Garonne notamment, et surtout dans le Grand Est. Le Val de Saône jusqu'au Lyonnais, donc pas partout du gris, pas partout du soleil. Bon, on verra, ça c'est hétérogène. Quant aux températures, les minimales sont généralement négatives dans le nord et l'est du pays, jusqu'à moins 5 degrés à Grenoble, moins 4 à Orléans, moins 3 à Mulhouse et Clermont-Ferrand, moins 2 à Lille, il fera moins 1 à Paris. Attention très localement au regel des chaussées encore humides. Et puis en journée, les maximales ne dépasseront pas les 4 degrés à Dijon, Lyon, Lille, Metz, 5 dans la capitale, mais 11 degrés à Nantes, 13 à Brest, Biarritz et 15 à Nice.
Merci Marlène Duret pour ce point météo très complet. Rendez-vous minuit pour un nouveau point avec vous dans un instant sur Europe 1. C'est Top à Wall Street avec Didier Hamot. A tout de suite.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street sur Europe 1 avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street débute la semaine en baisse dans un marché plutôt prudent.
Comme la semaine dernière, le mouvement de reflux se confirme à Wall Street, alors que les craintes de hausse des taux se précisent pour faire face au regain d'inflation aux États-Unis. Le Dow Jones perd 0,45%, 36 069 points à la clôture. Le Nasdaq est plus stable, 14 942 points. Les valeurs de technologie résistent mieux. Apple est stable à $172. Google remonte même d'1% et Tesla de 3% à $1058. Dans le secteur des jeux vidéo, ça s'agite pas mal. Le groupe Take-Two veut acquérir Zynga qui flambe même de 40% à $8.43. Le pétrole est plus terne, il revient en arrière après sa hausse récente, moins 0,8%, $78.30 le baril. Les valeurs industrielles sont assez lourdes, Boeing, moins 2,8%, Nike retombe de 4% à $150. L'euro revient aussi un cran en arrière sur les 1,13 face au dollar.
À Paris, le CAC 40 aussi s'inscrit dans un mouvement de baisse.
Une grosse baisse, hein, moins 1,44%. Ça reflue aussi sur le CAC 40. 7115 points. Le repli a été accentué par la correction de certaines valeurs, comme Atos, qui a plongé de 16,8%, €32. Alors que le groupe de conseil en informatique a de nouveau déçu avec des résultats inférieurs aux attentes. Et puis il y a de la casse du côté du secteur du luxe qui était bien monté hein, ces derniers mois. Hermès redonne 5%, UBS a dégradé le dossier Hermès, Kering moins 3%, LVMH moins 1,8% à €702.70.
Exception du jour, Didier, le titre Alstom a terminé en nette progression.
Une belle performance, plus 1,8%. €33 Alstom après une nouvelle commande en Allemagne pour 17 trains Coradia Stream. La mise en service est pour le 15 décembre 2024. Une grosse commande qui fait monter la valeur Alstom d'1,8% ce soir. Ailleurs, les autres places financières reculent. Le DAX, moins 1,1%. Milan perd 1%. Madrid, moins 0,2%. Et donc le CAC 40 en baisse à la clôture d'1,44%. 7115 points.
Merci Didier Hamot. Vous n'avez peut-être pas vu passer toutes les autres, mais c'est déjà la 24e licorne française. L'invité éco ce soir, Nicolas Daudifray, cofondateur de la place de marché Encore Store, il répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Nicolas Daudifray.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur d'Encore Store, c'est une place de marché en ligne. Et si nous avons voulu être en ligne justement avec vous ce soir, c'est parce que vous devenez la 24e licorne française. Déjà depuis le début de l'année, il y a eu deux nouvelles licornes, donc vous aujourd'hui. Alors, je vais juste rappeler rapidement ce qu'est une licorne. C'est une entreprise qui est valorisée plus $1 milliard, c'est-à-dire du coup une entreprise qui a grossi vite et qui est en forme. C'est donc votre cas du côté d'Encore Store. Et pourtant, je suis sûr que là, à la maison ou en voiture, un paquet de nos auditeurs se disent « Mais c'est quoi cette place de marché? Ils font quoi? J'en ai jamais entendu parler. » Bah, ma première question va donc être toute simple. C'est quoi Encore Store?
Eh bien, c'est une très très bonne question. Encore Store, c'est une place de marché digitale qui met en relation d'un côté des marques et de l'autre des commerçants. Donc si vous voulez, nous, notre mission, c'est de créer une plateforme qui va permettre aux commerçants qu'on a dans toutes nos rues, dans tous nos villages, dans toutes nos villes, de découvrir de nouvelles marques à proposer à leurs clients.
Quel genre de marques trouve-t-on sur Encore Store?
Alors on va trouver des marques qui sont des marques indépendantes, que justement on ne peut pas trouver partout ailleurs, notamment dans la grande distribution. Nous, notre objectif, c'est que les commerçants indépendants puissent se différencier par rapport aux grandes plateformes Internet ou par rapport à la grande distribution en proposant justement une offre qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc on a aujourd'hui plus de 15 000 marques qui viennent de partout en Europe et qui sont généralement, qui proposent des produits uniques pour permettre aux commerçants indépendants de faire la différence vis-à-vis de leurs clients.
Vis-à-vis de leurs clients, mais également vis-à-vis d'Amazon. C'est que vous offrez une alternative à Amazon. Vous êtes une place de marché concurrente où sur ces marchés-là, les commerçants indépendants peuvent plus facilement toucher leur cible?
Oui, exactement. Nous, notre conviction, c'est que les commerçants indépendants n'ont pas intérêt à proposer les mêmes types de produits que les grandes plateformes comme Amazon, vous les avez cités, mais qu'ils doivent au contraire se différencier en apportant des produits qui font la différence, qui permettent aux clients finaux de découvrir des nouveaux savoir-faire ou des nouveaux concepts. Donc c'est exactement ce type de produit qu'on propose sur notre plateforme.
Ce qui est fou, c'est que je le disais, vous êtes la 24e licorne, c'est pour ça que vous êtes en ligne avec nous ce soir. Vous avez été créé il y a seulement 2 ans. Comment on explique ce développement exceptionnel? C'est grâce ou à cause du développement du commerce en ligne? Vous surfez à fond sur cette vague qui s'est accélérée avec les confinements à répétition dus à la crise du Covid?
Alors oui, en partie. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on s'attaque en fait à un marché qui est énorme. Les commerçants indépendants, finalement, sont plus gros qu'Amazon. Si on les prend individuellement, certes, ce sont des petites entreprises, mais si on les rassemble et qu'on les met ensemble, ils représentent un marché qui est plus gros qu'Amazon. Donc on s'attaque à un marché qui est énorme. On propose une solution qui est bien meilleure que les solutions qui existent aujourd'hui. Et puis, on a rassemblé une équipe de très grands talents chez Encore Store qu'on a recruté ces 2 dernières années, ce qui nous a permis de connaître en effet une croissance très rapide qui a été accélérée par le Covid, puisque comme vous le savez sans doute, tous les salons professionnels ont été annulés. Et donc en effet, on est apparu comme une solution très intéressante pour des centaines de milliers de commerçants indépendants en Europe, ce qui nous a permis de devenir une licorne en 2 ans, comme vous le soulignez.
Mais ce qui est impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle la France semble se développer dans ce secteur, puisqu'on avait également fait de cela il y a quelques mois une interview avec le patron de Miracle, qui est une autre place de marché, elle aussi, qui était devenue une licorne l'année dernière. Il y a une spécificité française de ce commerce en ligne où on rattrape juste notre retard?
Non, vous avez raison, il y a une spécificité française qui est liée aussi en fait au développement de grandes marketplaces en Europe et en France en particulier. Vous avez cité Miracle, on pourrait citer aussi Mano Mano ou Back Market.
Mano Mano sur le bricolage, Back Market sur le reconditionnement de notamment téléphones portables.
Et donc ça crée un écosystème, si vous voulez, autour des marketplaces, avec du coup un très grand nombre de personnes qui deviennent un peu spécialistes de ces sujets de marketplace et qui elles-mêmes ensuite veulent créer leur propre marketplace. Donc il y a un écosystème qui est en train de se développer en effet en France autour des marketplaces, et c'est une très bonne nouvelle.
Vous vous rémunérez en prélevant une commission de 10 à 20% environ sur les ventes réalisées par les marques. Le but de cette levée de fonds, parce que c'est comme ça qu'on sait que vous valez un peu plus $1 milliard maintenant, c'est de vous développer, parce que ceux qui resteront au bout, ce sont ceux qui vont grossir le plus vite. Donc, vous voulez grossir en France et puis surtout à l'étranger, c'est ça?
Oui, alors dès le début, nous, on s'est lancé à l'international. On est donc présent dans 24 pays aujourd'hui. Et donc, en effet, vous avez raison, il y a 2 axes de développement pour nous dans les années qui viennent. Le premier, c'est un développement géographique, de continuer notre expansion partout en Europe. Donc, comme je vous le disais, on est dans 24 pays, mais on veut développer notre présence dans chacun de ces pays. Et puis, en parallèle, on veut aussi développer un 2e axe autour des services que nous proposons aux commerçants. On veut vraiment simplifier leur vie, faire en sorte que ça soit extrêmement simple de gérer toute la partie achat, gestion des stocks pour un commerce, afin qu'ils puissent se focaliser justement sur l'expérience client, aller chercher des nouveaux clients et leur proposer une superbe expérience en magasin.
Comment vous expliquez que l'on arrive, nous, aujourd'hui en France, à passer assez facilement cette barre du $1 milliard de valorisation? Est-ce qu'il y a également, de votre côté, à vous, jeunes entrepreneurs, des plafonds de verre qui ont sauté?
Oui, vous avez tout à fait raison, et je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour la France, parce que ces licornes vont créer beaucoup d'emplois dans les années qui viennent. Et vous avez raison de parler de plafond de verre. Il y avait sans doute il y a quelques années un manque d'ambition du côté des entrepreneurs. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. La plupart des entrepreneurs qui se lancent veulent construire des leaders mondiaux.
Mais ça vient d'où? C'est parce que vous avez vu les petits copains réussir et vous dites bah allez, c'est bon, nous aussi on va être mondiaux dès le début parce qu'ils y sont arrivés. C'est comme ça que ça a marché?
Oui, c'est souvent comme ça que ça se produit. Ce sont des rôles modèles. Les premiers qui développent des boîtes à l'international à partir de la France inspirent les autres. Et puis aussi, il faut souligner quand même une deuxième chose, c'est qu'on a désormais accès à beaucoup plus de capitaux à partir de la France. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Hein. Moi, c'est ma deuxième entreprise. La première entreprise, en tout, on avait levé 2 millions d'euros. Comme vous voyez, je vous précise, on a accès à beaucoup plus de capitaux. Et ça permet d'avoir des ambitions mondiales, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans en France.
Et parce que là, vous venez de lever 250 millions d'euros. Un grand merci à vous, Nicolas Dodifray. Je rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs d'Encore Store, donc la nouvelle place de marché en ligne qui devient la 24e licorne française, et on l'a compris, avec laquelle il va falloir maintenant compter. Nous, on se retrouve demain 22h20.
Et merci à vous, Emmanuel Dutheil. On vous retrouve demain également avec Elisabeth Assayag de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1. Vous vous demanderez si la période de crise que nous traversons encourage à l'engagement citoyen ou bien si c'est tout le contraire. Vous recevrez à cette occasion la responsable du service civique.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Avec ce rapide coup d'œil aux unes des quotidiens, demain matin, Ouest France a pu attendre les annonces de Jean Castex à 20h sur France 2 pour boucler sa une sur la simplification du protocole anti-Covid à l'école. Après ces annonces donc de Jean Castex, 3 autotests suffiront désormais pour les élèves qui seraient cas contact à l'école. Ah, qu'elles semblent loin déjà les vacances de Noël avec cette épuisante course aux tests. C'est la une de La Croix, la stratégie tester, tracer, isoler, chamboulé par l'explosion du nombre de cas contacts liés au Covid. La campagne présidentielle, tout de même à la une du Figaro, avec le système des parrainages qui se trouve sous le feu des critiques. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon font partie des candidats à la présidentielle qui ne sont pas encore certains de recueillir ces précieuses 500 signatures. 22h30, vous êtes sur Europe 1.
et avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Et je trouve qu'il tient plutôt bien votre bronzage quand même. Oui. Je disais que les vacances de Noël étaient loin, mais pour vous, c'est encore...
J'ai encore le teint allé, comme
tout
on
à
dit.
Fait. Oui. Ouais,
bah écoutez, tant mieux.
Là, tant mieux.
Voilà une petite coquetterie qui s'éternise.
Qui ne se refuse pas.
Voilà, exactement. Vous voyez tout, vous, hein?
Bien sûr, je ne vois que ça.
Bon, tout va bien, tout se passe bien dans l'actualité.
Tout va bien.
Bon. Rien à signaler.
Jean Castex a fait des annonces ce soir pour le protocole sanitaire à l'école, si vous avez des enfants à l'école, Olivier.
Eh bien, je serai attentif à votre prochain journal, car je rentre, comme vous le savez, de tournage et je n'ai pas eu l'occasion d'écouter les infos. Donc, je vous retrouve à 23h tout à l'heure pour prendre connaissance de toutes ces annonces. À tout à l'heure, Alexandre.